consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil.
14h03, Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
Merci Jacqueline et bonjour à tous. Aujourd'hui, à l'occasion de la sortie du film de Robert Guédiguian, Les derniers mois de François Mitterrand.
Nous venons d'apprendre la mort de François Mitterrand, c'est son secrétariat qui vient d'annoncer la nouvelle. François Mitterrand donc a été président de la République, je vous le rappelle, de 1981 à 1995, c'est le plus long règne de la Ve République. François Mitterrand qui était âgé de 79 ans, on se retrouve bien sûr dans les minutes qui viennent.
D'histoire. Le 8 janvier 1996, en fin de matinée, personne ne fut surpris d'entendre toutes les radios et les télévisions interrompre leur programme pour annoncer la mort de François Mitterrand. Depuis 3 ans déjà, tous les Français avaient vu son visage de plus en plus marqué par une maladie qu'il ne cherchait plus à dissimuler. Il en parlait même volontiers aux journalistes, en ne leur cachant que la date à laquelle elle s'était déclarée. Mais ce 8 janvier, l'heure n'était plus aux polémiques sur la maladie, la vie privée, les amitiés douteuses ou le passé vichiste de François Mitterrand. On préférait se souvenir de celui qui, en 1981, avait porté la gauche au pouvoir et qui, pendant 14 ans, à la tête de l'État, avait profondément marqué plusieurs générations de Français. Si bien que ce jour-là, ses partisans, aussi bien que ses adversaires, avaient préféré faire taire leur querelle pour lui rendre un dernier hommage.
Le président François Mitterrand est mort ce matin. Les Français ont appris avec émotion la disparition de celui qui les a guidés pendant 14 ans. Je voudrais saluer la mémoire de l'homme d'État, mais aussi rendre hommage à l'homme dans sa richesse et sa complexité. François Mitterrand, c'est une volonté. Volonté de servir certains idéaux, la solidarité et la justice sociale. Mais François Mitterrand, c'est d'abord et avant tout, je crois, une vie. Le président Mitterrand donne le sentiment d'avoir débordé sa propre vie. Il a épousé son siècle.
Pierre Favier, Michel Martin-Roland, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors c'était Jacques Chirac le jour de la mort de François Mitterrand, auquel d'ailleurs il avait succédé 7 mois plus tôt à l'Élysée. 7 mois que l'on retrouve aussi dans le film de Robert Guédiguian qui sort aujourd'hui dans les salles. Vous-même, vous avez rencontré plusieurs fois François Mitterrand entre 1988 et 1995 pour les 4 volumes d'un livre, La décennie Mitterrand. Est-ce que le Mitterrand que vous avez rencontré à la fin de sa vie ressemblait à celui qu'incarne Michel Bouquet dans Le promeneur du Champ de Mars, Pierre Favier?
Oui, bien sûr, quand on voit le film de Guédiguian, on retrouve naturellement le physique de Mitterrand. Bouquet lui ressemble beaucoup physiquement. Mais en revanche, ce qui manque, en mon sens, dans le film de Guédiguian et dans la prestation de Bouquet, il manque tout l'aspect de Mitterrand, président de la République, pendant ces derniers mois qui nous sont montrés dans le film. Et ce qui est très bien montré, ce qui est très bien vu, c'est ce dialogue avec la mort en permanence. Et puis cet homme qui veut dire, voilà, quelle trace je veux laisser dans l'histoire. Mais il manque beaucoup à ce film, les épisodes, les derniers mois de François Mitterrand à l'Élysée, où il continue quand même, en dépit de la maladie, de la souffrance et du cancer qui le ronge, à exercer le pouvoir. Et ça manque quand même beaucoup. On le voit à aucun moment se déplacer à l'étranger, prononcer des discours importants, puisque pendant toute cette période, il fait une sorte de tournée des adieux à travers l'Europe et même le monde et la France, où il délivre à chaque fois un message qui est une sorte de testament politique.
Michel Martin-Roland, le Mitterrand des derniers mois que vous aussi vous avez connu.
Il prépare sa fin comme il a vécu sa vie. Jacques Chirac disait que Mitterrand, c'était d'abord une vie. Je me souviens d'une phrase prononcée par Mitterrand dans un de ses nombreux voyages en province. Il dit un jour, comme ça au détour d'une phrase dans une mairie lointaine du sud-ouest. Chaque jour est un anniversaire. Alors c'est son rapport à l'histoire, c'est son rapport à la famille, c'est son rapport à ses proches, mais c'est aussi son rapport à cette vie qu'il doit vivre de façon pleine et entière à chaque instant. Et plus il s'approche de la fin, et plus il remplit ses journées, utilisant chaque moment d'énergie pour aller jusqu'au bout de ce qu'il peut faire et de ce qu'il pourra laisser.
Parce que le... Oui.
Oui, justement, là, précisément, ce que dit Michel m'intéresse beaucoup et correspond à ce que je pense. Effectivement, il dit régulièrement pendant cette période où il est très mal, chaque jour qui gagne est un jour de gagner sur la maladie et sur la mort. Et là, il y a un épisode dans le film qui le montre à Liévin auprès du congrès des socialistes où il va faire, là encore, ses adieux aux socialistes. Il déjeune avec, en gros, l'état-major du PS. C'est un petit peu la scène, vous savez, il a là tous les chefs historiques du Parti Socialiste autour de lui à table. Et ces gens sont assez tristes parce qu'ils le voient très déclinant et en train de mourir. Et lui leur parle, enfin c'est le récit que nous ont fait tous les témoins, ceux qui assistaient à participer à ce déjeuner. Et il dit à chaque fois, mais regardez, dehors, il y a encore un petit peu de lumière. Et ne soyez pas tristes, chaque jour qui passe est un jour de gagner. Et vous allez revenir aux affaires, vous allez vous battre. Et donc, il faut au contraire prendre tout ça comme quelque chose de positif.
Avec beaucoup de philosophie. Mmh. Sa mort, il faut le rappeler, n'a provoqué sa maladie plutôt, n'a provoqué de polémique qu'après sa mort, parce qu'on ne savait pas encore à l'époque, avant sa mort, on ne savait pas, on le saura qu'avec le docteur Gubler après, qu'il était malade depuis 81, ce qui posait problème, puisqu'il avait annoncé en 81 qu'il donnerait son état de santé tous les ans, et en fait, il l'a fait avec des états de santé qui étaient faux, avec des
documents qui étaient faux. Et effectivement, il meurt le 8 janvier 1996, et quelques jours plus tard, le docteur Gubler révèle par un livre qu'il a fait avec un journaliste, un confrère, que Mitterrand souffrait d'un cancer depuis l'automne 81, c'est-à-dire moins de 6 mois après son installation à l'Élysée. On lui annonce qu'il a un cancer, et il demande au médecin de dissimuler la chose jusqu'à son opération en 1992.
Alors, son état de santé, il ne peut plus le dissimuler lorsque le 31 décembre 1994, il adresse aux Français ses derniers vœux de président de la République.
Mes chers compatriotes, c'est la dernière fois que je m'adresse à vous pour des vœux de nouvelle année en ma qualité de président de la République. L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je l'écouterai. Le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin, et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit, et je ne vous quitterai pas. Bonne année, mes chers compatriotes. Bonne année, et longue vie. Vive la République, vive la France.
Alors je crois aux forces de l'esprit, je ne vous quitterai pas, ces quelques mots des derniers vœux de François Mitterrand le 31 décembre 1994 ont fait couler à l'époque beaucoup d'encre. C'est rare qu'un chef de l'État, et a fortiori socialiste, parle des forces de l'esprit, et au fond, une espèce de... étale ses convictions religieuses en quelque sorte.
D'abord, il étant à la fin de son parcours et de son mandat, il se permet de s'affranchir de son devoir de neutralité laïque. Et en fait, ça veut dire deux choses. Il y a un message historique. Je ne vous quitterai pas. Regardez, on est quoi, 9 ans après, on en parle encore. 10 ans après, on en parle encore. Donc ça, c'est à ça qu'il pense. Il pense à la trace qu'il ou la marque qu'il laissera dans l'histoire. Donc ça, c'est une façon de dire je ne vous oublierai pas, mais vous ne m'oublierez pas non plus. Et puis les forces de l'esprit, c'est qu'il cherche la présence divine. Il est agnostique, il le dit, mais il dit qu'il cherche.
Jean-Daniel disait, il croit au divin et non en Dieu.
Ah, écoutez, on a été plusieurs fois visiter des églises, des basiliques, Vézelay notamment avec lui. Et c'est évident, quand il entre dans un lieu religieux, il y a chez lui, il est saisi par quelque chose et on sent qu'il est son âme est réveillée, si tant est qu'il en ait une.
Vous disiez, Michel Martin Roland, qu'il se préoccupait beaucoup de laisser une trace. Et c'est vrai que, d'abord, il est le premier président de la République, vous l'écrivez dans votre livre, à avoir pu préparer son départ. Ni le général de Gaulle, qui est parti précipitamment en 69 après un référendum, ni Georges Pompidou, qui est mort en cours de mandat, ni Valéry Giscard d'Estaing, qui, lui, est parti à la suite, justement, de sa défaite de 1980, n'ont pu le faire. Lui, on sent bien, il sait qu'il termine son deuxième mandat, qu'il sera fini en 1995, et avant même sur son départ, il prépare déjà l'avenir. Enfin, en tout cas, ce qu'on dira de lui, Pierre Favier.
Oui, effectivement, Mitterrand sait que au printemps de 1995. Le printemps de 1995 va marquer la fin de son action politique. Il est depuis un demi-siècle en politique, depuis les lendemains de la guerre où il a été député de la Nièvre. Il sait que c'est à la fois la fin de sa vie politique et la fin de sa vie tout court. Donc le voilà qui, en gros, un an avant de partir de l'Élysée, s'organise et se prépare. Alors il prépare à la fois son départ de la vie politique et son départ de la vie tout court. Et ce qui le conduit à organiser une
sorte en espérant, je vous coupe, en espérant justement rester en place, c'est-à-dire mourir après son départ de l'Élysée. On sent vraiment que ça le fait,
ça. Je suis même persuadé, je pense que Michel partage là ce que je vais dire, que Mitterrand restera en vie, pourra survivre jusqu'au printemps 95, parce qu'il a absolument ce désir, cette volonté de rester jusqu'au bout à l'Élysée. Il affirme, et il nous a répété plusieurs fois, j'ai pris un engagement devant les Français, il faut que je tienne jusqu'au printemps de 1995, jusqu'au mois de mai. Et effectivement, il tiendra jusque-là. Et à partir de une année avant, en gros, le compte à rebours commence, et le voilà qui organise son départ de la vie politique, et qui organise cette sorte de tournée testament à travers le monde et à travers la France, où il délivre à chaque fois un message. Il va à Strasbourg prononcer un discours, alors qu'il a beaucoup de mal à se tenir debout, même physiquement il est épuisé, mais il parle pendant une heure au Parlement de Strasbourg en délivrant un message en disant que le nationalisme c'est la guerre. Il va en Allemagne, il va aux États-Unis, il va devant le Congrès des socialistes à l'automne de 94. Autant de messages et de marques qu'il veut laisser dans l'histoire.
Et ce qu'il va faire d'ailleurs jusqu'au bout, il faut rappeler quand même qu'il est un président qui a automatiquement un peu moins de pouvoir, puisque nous sommes à l'époque en période de cohabitation, que c'est Édouard Balladur qui est Premier ministre, mais il se déplace énormément. Vous citez aussi, et il va le faire jusqu'au bout. Par exemple, on oublie un peu, Jacques Chirac a été élu le 7 mai 1995 président. Le 8 mai, c'est forcément le 50e anniversaire de la fin de la guerre en Europe, et des manifestations considérables auxquelles participe François Mitterrand, qui est encore en fonction, même si Jacques Chirac a été élu. Et alors il va en Allemagne, il y a de grandes réceptions à l'Élysée avec beaucoup de chefs d'État. Il va en Allemagne, il y a eu un voyage d'ailleurs, des propos très discutés, parce qu'il semble rendre hommage à l'armée allemande, Michel Martin-Roland.
Il rend pas hommage à l'armée allemande, il rend hommage à l'engagement patriotique, en réalité. Mmh. Il dit que quiconque se bat pour sa patrie mérite pour sa patrie. Il rend pas hommage aux nazis, il fait la différence entre l'armée...
Je crois que là, cette formule, ils aimaient leur pays et défendaient leur pays, même si leur attitude était condamnable, ou même si l'engagement politique...
Pour une cause mauvaise, il disait.
C'est ça, tout à fait.
Il dit aussi, je l'ai dit hier, je n'ai jamais considéré que les Allemands étaient nos ennemis, simplement il fallait se battre parce que tels sont les systèmes, les régimes, les idéologies, les déformations de l'esprit. Cela dit, il y a eu quand même pas mal de critiques qui ont été faites, mais on sent bien là l'homme qui veut évidemment achever ou continuer la réconciliation franco-allemande. Il prépare vraiment son testament politique plus qu'il ne prépare sa succession, parce que c'était l'époque aussi où Jacques Chirac venait d'être élu à l'issue d'une campagne où François Mitterrand a à peine aidé Lionel Jospin quand même, Michel Martin-Roland.
Lionel Jospin n'a pas voulu de François Mitterrand. Il a dit, oui, je ne suis pas un satellite de François Mitterrand. C'était la fierté, la rigidité protestante de Jospin qui est intervenu là. Je crois que Mitterrand aurait bien aimé que le téléphone sonna et que Jospin l'appelle en lui disant venez me soutenir dans un meeting.
Nous avions
que Jospin
là,
n'a pas fait.
Effectivement, deux orgueils qui étaient en confrontation, puisque Mitterrand attendait, comme dit Michel, que Jospin l'appelle. Mitterrand voulait absolument assister à un meeting de Jospin, et le premier secrétaire du PS à l'époque, qui était Henri Emmanuelli, avait insisté auprès de Jospin en lui disant il faudrait que tu demandes à Mitterrand de venir assister à un de tes meetings et l'installer au premier rang, ça lui ferait un immense plaisir et ça serait peut-être pas trop mauvais pour ta campagne. Jospin n'a jamais voulu faire cette démarche, Mitterrand, qui attendait ça, n'a jamais voulu appeler Jospin, et les deux attendaient que l'autre l'appel. Voilà.
Oui, mais quand même, vous l'écrivez dans votre livre, le 7 mai, lorsque la victoire de Jacques Chirac est connue, il semble moins affecté que soulagé, en définitive. Ça lui importe peu que ce soit Chirac qui soit élu.
Il a tenu.
Michel Martin-Roland a tenu,
c'est le Capornier qui a ramené le bateau en bon état avec la cargaison jusqu'au port.
14 ans.
Je me souviens de quand on le voyait à l'automne 94, au moment des rafales de polémiques sur le livre de Pierre Péan. Il était dans son fauteuil IMS, dans son bureau. Il était crevé, il était épuisé. Et on se demandait en le voyant s'il allait tenir jusqu'au bout. Lui-même a dû se poser la question. Donc je crois qu'il y avait la satisfaction du devoir et du mandat accompli.
Il était soulagé parce qu'il allait enfin pouvoir partir, se reposer et attendre la mort, quoi.
Mais... Alors, justement, il le fait, rue Frédéric Leplay. Alors, il avait préparé aussi, vous dites, depuis très longtemps, son statut de président de la République après l'Élysée. Hein, dès 83, il y pense, c'est assez extraordinaire, c'est-à-dire quand même 12 ans avant son départ. Et comment, vous l'avez connu à ce moment-là, comment était-il? Parce que sa santé se dégrade, forcément.
Sur le statut de l'ancien président de la République, il est alerté, il a parlé de ses collaborateurs, c'est Michel Charras, qui vient lui dire que Madame Pompidou a des soucis d'argent, des problèmes financiers, a du mal à rester à vivre dans l'île Saint-Louis, elle a des difficultés financières. Et Mitterrand demande à Charras de préparer une sorte de statut, enfin de réglementer tout ça pour le chef de l'État ou même sa veuve au-delà. Et c'est là que Charras rédige un texte pour prévoir que le président de la République ou sa veuve percevront la rétribution d'un conseiller d'État en fin de carrière. En gros, c'est ça. Et donc, il pense à tout ça et organise tout ça. Oui, dès 83-84.
Et ce bureau avec un secrétariat, rue Frédéric Leplay, il va pas rue de Bièvre, qui est son domicile, mais c'est là que vous le rencontrerez plusieurs fois.
Il travaille aussi, hein.
Oui, il travaille.
Peu d'heures d'énergie qu'il a. Il a une grande préoccupation, c'est qu'est-ce qu'on va dire de moi plus tard sur la chute du mur de Berlin, sur l'Allemagne. Hein. Oui. Et ça, c'est vraiment sa préoccupation.
Et il travaille en votre compagnie, puisque tous les deux, vous le rencontrez en septembre 1995. Oui. Alors là, il y a un mal fou de tout le monde. Hein. Ça, tout le monde y passe. Même, justement, Georges-Marc Bernamou, qui était le journaliste à partir duquel on a fait le film de Guédi Guian, il en dit un mal fou. Il pose des questions de primates, etc. Ils étaient fâchés à l'époque. Hein,
je crois que Mitterrand était un peu déçu. Je crois qu'il était pressé et que peut-être Bernamou n'allait pas assez vite, travaillait peut-être pas assez vite.
Oui, Mitterrand demande à réécrire une partie du texte.
Et il a surtout une critique à lui faire. Il lui dit, il ne connaît rien au gaullisme. Et Mitterrand qui se replonge dans sa vie passée. Faut pas oublier qu'il a été dans l'opposition pendant 21 ans. On a tendance à penser qu'aux années de pouvoir, mais il y a eu 21 ans d'opposition.
Ça l'obsède, le gaullisme. Mitterrand, je crois que ça l'obsède toute sa vie. Dans le film aussi, il y a une phrase, je sais pas s'il a pu la prononcer, où il dit d'une manière désabusée au journaliste qui joue le rôle de Georges-Marc Bernamou, il dit, vous savez, retirer le 18 juin, il restera rien de Gaulle. Est-ce que c'est possible, ça?
Je crois qu'effectivement, il a pu prononcer cette phrase dans un moment où, en plaisantant ou ironiquement, ça c'est bien possible. Mais quand on parle de cette obsession de Gaulle, je crois qu'il y a une réalité objective là, parce que même quand
le seul qui lui fasse de l'ombre,
même lorsqu'il effectuait des voyages à l'étranger, il demandait constamment en son service de protocole ne vous inspirez pas de ce que faisait Giscard ou de ce que faisait Pompidou. Regardez la manière dont de Gaulle voyageait, qui il voyait, où il intervenait. Et donc de Gaulle était une préoccupation, et même jusqu'à ses obsèques, puisqu'il demande une double messe. Il dit une messe sera possible.
Oui. Le général. Mais justement, on y reviendra, Pierre Favier. Mais avant ces obsèques, je crois que vous l'avez téléphoné la veille même de sa mort à François Mitterrand.
Oui, alors je lui ai téléphoné. Ça devait être un dimanche, effectivement. C'était la veille du 8 janvier. J'ai téléphoné pour prendre des nouvelles parce qu'on avait vu sur les télévisions l'état dans lequel il se trouvait en revenant d'Égypte. On a vu des images en Égypte puisqu'il était là-bas avec sa fille Mazarine et quelques amis. Donc j'ai voulu le joindre au téléphone le dimanche en question. Et là, j'ai pu lui parler une, deux minutes à peine, parce qu'il était vraiment à bout de force. Et il m'avait dit, rappelez-moi plus tard, quand je serai un petit peu mieux. Or, on a appris sa mort le lendemain, qui était le lundi 8 janvier, et Michel et moi, on se trouvait chez Bianco pour continuer à travailler sur notre livre.
Sur votre livre. Et justement, donc, il meurt le 8 janvier, et c'est finalement, puisqu'il vous avait évoqué ses obsèques devant vous, parce qu'il y pensait beaucoup, encore qu'il dise, après tout, je m'en fous, je serai enterré, c'est finalement en Charente, à Jarnac, qu'il sera enterré. Après une cérémonie religieuse qui a surpris, une messe est possible, disait-il, vous l'avez dit Pierre Favier, en fait il y en aura deux simultanément, le 11 janvier 1996, l'une à Paris en présence de 61 chefs d'État et de gouvernement, l'autre à l'église Saint-Pierre de Jarnac où il avait été baptisé.
Oui, le cercueil de François Mitterrand est maintenant devant l'église Saint-Pierre. Derrière le cercueil, il y a Daniel Mitterrand, ses deux fils, Jean-Christophe et Gilbert. Derrière, Anne Pinjot, la maman de Mazarine, aux côtés de sa fille Mazarine, et puis Roger Hanin et Christine Louzrenal, la sœur de Daniel Mitterrand. Voilà, le cercueil pénètre dans l'église. La famille suit tout doucement, une grande, très grande émotion, un très, très grand silence sur cette place de l'église où commence la messe, la cérémonie religieuse, une cérémonie strictement privée. Nous aurons juste le son, la place de l'église sera sonorisée.
Étonnante cette messe Michel Martin Roland pour quelqu'un, on disait tout à l'heure, qui n'allait pratiquement ou qui n'allait sans doute jamais à l'église depuis longtemps. Et une cérémonie familiale, mais avec une double famille. Ça aussi, ça a beaucoup surpris les gens de voir Mazarine, de voir sa mère à côté du reste de sa famille.
Tout à fait. Encore une fois, chez Mitterrand, qui est toujours ambivalent, il y a deux choses. Il y a la volonté de montrer aux Français qu'il n'a rien à cacher, après avoir caché beaucoup de choses. Et puis, il y a la volonté de réconcilier les siens. Je me souviens qu'on avait, j'avais parlé avec Gilbert Mitterrand, donc son fils cadet, la veille des obsèques. On travaillait, Pierre et moi, pour l'agence France Presse, comme aujourd'hui encore, et nous étions chargés de la couverture de l'événement. Et Gilbert nous a dit, mais on sera tous là, tout a été organisé depuis longtemps. Et alors lui dit, mais Mazarine sera là. Oui, il n'y a pas de problème, tout est réglé depuis longtemps.
Il avait écrit tout ça. Quoi.
Tout était écrit.
Mais on a le sentiment d'un homme qui met en scène, comme il a mis en scène une partie de sa vie, qui met en scène sa mort. Il disait, mort ratée, vie ratée, je crois.
Écoutez, moi, juste une chose. Bouquet parlait d'un Valois. Moi, je parle plutôt d'un Bourbon.
Il a mis dans le
13-14. Il a mis en scène sa mort. Il a préparé sa mort comme Louis XIV la sienne. Mmh. Le duc du Maine, c'est Mazarine. Hein. Mmh. C'est la même chose. Ils sont là aux obsèques auprès des princes de sang.
Ça fait râler quand même pas mal de gens. Là, je parle de caractère religieux des obsèques. Je crois que Michel Charras était resté à l'extérieur, évidemment, parce qu'il...
Oui, alors là, c'était le côté laïcard de Michel Charras, qui n'a jamais mis les pieds dans une église. Mmh. Et plusieurs fois, et combien de fois, il nous a raconté des obsèques ou des funérailles en Auvergne, là-bas dans son coin, où il allait enterrer des élus, et lui restait toujours devant l'église, et a toujours... refusé, et même pour Mitterrand, il est resté devant la porte de l'église, attendant que le cercueil ressorte.
La manifestation, cela dit, peut-être la plus authentiquement religieuse, c'était celle qui a été organisée la veille, le 10 janvier 1996, à l'endroit même où, 15 ans plus tôt, les socialistes avaient fêté leur victoire de 1981. Ils se retrouvaient donc, 15 ans plus tard, à la Bastille, pour rendre hommage à celui qui l'avait rendu possible, en écoutant Barbara Hendricks chanter Le temps des cerises, devant une foule beaucoup moins importante qu'en 1980.
Un grand respect surtout pour celui qui vient de partir. J'espère que personne n'oubliera ce jour et personne n'oubliera François Mitterrand avec tout ce qu'il nous a laissé.
Pour moi, c'est un souvenir extraordinaire. J'ai vécu 81, j'ai suivi Mitterrand depuis dans ma jeunesse, depuis 1965, oui, depuis la FGDS, et j'ai continué. Quand il parlait, il me touchait. Enfin, c'était un homme tellement intelligent, bon, il a su nous parler, quoi.
C'est pas un adieu qu'on vient lui faire. C'est un hommage. François, il nous a appris quelque chose. Il nous a appris ce que c'était que la gauche. Il nous a appris au moins à connaître les fleurs, ne serait-ce que la rose.
Vous y étiez à la Bastille, Michel Martin Roland.
Oui, je me souviens d'une cérémonie, d'un moment de simplicité populaire. C'est-à-dire que on avait tellement vu les fastes. Et c'est vrai qu'il y avait eu un aspect monarchiste chez Mitterrand et nous qui étions les correspondants à l'agence France Presse, on a vu la cour de près, et là c'était la population, les électeurs de base, les Parisiens,
oui,
et c'était pas, il y avait pas de chichi, il y avait pas de mise en scène de Jack Lang là,
qui brûlait, installait des bougies, c'était très touchant effectivement, sous la pluie là encore, c'était
alors il y avait pas grand monde parce que c'était pas tellement, enfin il y avait pas grand monde, il y avait des milliers de personnes, mais c'était pas quelque chose d'organisé à l'avance avec des cartes.
Il y avait peut-être aussi, bon, quand même il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des illusions à gauche, justement le bilan, je voudrais... Il nous reste quelques secondes pour en parler. Qu'est-ce qui reste, au fond, de François Mitterrand, à part la rose dont parlait, justement, dans le micro-trottoir, celui qui a participé, l'homme qui a participé à cette manifestation de la Bastille?
Je crois qu'on va enfiler des perles. Roland Dumas dit ce qu'il a, ce chose qui restera, c'est la pyramide. Bon, alors il restera certainement les grands travaux, parce que ça, ils sont visibles, et les Parisiens les voient tous les jours.
Oui.
Mais je crois qu'il y a beaucoup plus de choses. Pour moi, je vais en retenir une, c'est la conversion des Français à l'Europe. C'est d'arracher l'euro avec Kohl et l'aide de Jacques Delors au moment de Maastricht. C'est le réalisme économique, c'est la suppression de l'échelle mobile des salaires, on sait plus ça. Mais avant, du temps de Raymond Barre et Giscard d'Estaing, quand l'inflation montait, les salaires montaient. L'inflation a été cassée par Mitterrand et Bérégovoy.
Non, il y a aussi, alors pour moi, la peine de mort. L'abolition de la peine de mort, c'est quelque chose de très important. Et pour les électeurs de droite ou de gauche, ça a été quelque chose d'essentiel et qui restera effectivement. L'Europe, naturellement. Et puis pour les... pour le peuple de gauche, comme disait Mitterrand, il aura donné une crédibilité à la gauche pour gouverner de manière dans la durée. Jusque-là, la gauche gouvernait pendant 1 an, 2 ans, et puis était balayée par... Le gouvernement était renversé. Là, Mitterrand inscrit la gauche dans la durée et la rend crédible. Elle gouverne, elle s'en va, elle revient, et tout ça, l'alternance est devenue possible sans que ça entraîne de gros bouleversements dans le pays.
Il vous a séduit, manifestement. Bon, il n'y a pas que des éloges. Il y a quand même aussi, et beaucoup de gens à gauche le lui ont reproché, il y a l'argent, il y a les affaires. Ça a été ça aussi, la décennie Mitterrand.
Alors,
Michel Martin Roland.
Il y a en ce moment, le procureur est en train de requérir, je crois, au tribunal correctionnel à Paris sur l'affaire des écoutes de l'Élysée. Là, bon, il y a le secret du roi, il y a l'aspect monarchiste inacceptable dans un état de droit, où il a écouté un peu au-delà de ce qui était nécessaire. En même temps, il faut se rappeler le contexte. Hein. Mais alors sur les affaires, je m'inscris en faux contre Mitterrand, rendez l'argent, le millionnaire, Mitterrand les 40 voleurs, c'est pas vrai. Interrogé aujourd'hui.
Non, mais pas lui, mais l'entourage.
Lui non. Il a laissé faire. Il a son tort, c'est de ne pas avoir été propre pour les autres.
Mitterrand, c'est une vie, disait Jacques Chirac le jour de sa mort, on l'a entendu tout à l'heure, le bilan aussi d'une vie, c'est ça, François Mitterrand, il y a quelques années, c'est vrai que c'est une vie, c'est un roman aussi que sa vie, c'est une ambition satisfaite également. Pierre Favier ?
Oui, effectivement, ça a été un destin hors du commun. Effectivement, voilà un garçon, un jeune étudiant de droite, qui devient président de la République de gauche, qui est prisonnier, qui va à Vichy, qui devient résistant, qui gouverne avec les communistes uniquement, mais qui arrive finalement à les réduire au bout de quelques années, c'est effectivement un destin hors du commun. Et au-delà de la politique et de l'action politique, il y a aussi l'homme de culture, l'homme pétri d'histoire, qui s'intéresse à tout ça, qui parle de religion, qui parle de la nature, qui parle de littérature. Et c'est un peu ça qui a fasciné finalement non seulement les observateurs, mais les Français sont quand même impressionnés par la dimension de cet homme, et ils ont le sentiment de passer à une autre époque.
Michel Martin Roland.
Moi, je vais simplement parler pour moi-même. En tant que journaliste, il m'a été donné de le rencontrer, de l'approcher et puis de travailler aussi sur son action. Et il m'a éveillé à l'histoire. Il m'a éveillé aussi, d'une certaine façon, à l'art de vivre. Je en suis reconnaissant de ce point de vue-là, à titre tout à fait personnel.
Vous avez été, vous me l'avez dit avant l'émission, vous avez été fasciné par le personnage quand vous l'avez plusieurs fois.
Moi, j'étais pas du tout de son bord. Et d'ailleurs, ça n'importe guère. Mais je dois dire que sa façon de mener sa vie, d'organiser chaque instant, je reviens chaque jour un anniversaire, la vie doit être la plus pleine possible et il faut prendre et donner en permanence. Ça, je crois qu'il l'a montré malgré tous les défauts et tous les échecs.
Michel Martin Roland et Pierre Favier, merci de nous avoir rappelé ces derniers mois de François Mitterrand, que l'on retrouve de manière beaucoup plus complète dans 4 volumes passionnants sur l'ensemble de sa présence à l'Élysée. Vous appelez ça la décennie Mitterrand, mais ça couvre les 14 ans de sa présence à l'Élysée. Un livre très complet, publié au Seuil, et puis également en poche dans la collection Timpus. Je rappelle enfin que c'est aujourd'hui donc que sort en salle, mais faut-il le dire, on le dit partout, le film de Robert Guédiguian consacré aux derniers mois de François Mitterrand, Le Promeneur du Champ de Mars. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à tous ceux qui sont derrière la vitre, Nadège Antonini, Carole Sandevoir, Claire Destacan, Claire Tesser, et bien sûr la réalisatrice Anne Kobilac. Demain dans 2000 ans.